J'étais la seule qui restait. L'air était saturé de l'odeur de Licor, son sang de divinité, aussi riche que le miel. Des filets de sang incandescent couraient encore le long de ses jambes. Mon pouls battait dans mes veines. Savait-il que j'étais là? Je fis un pas prudent dans sa direction. Ses côtes se soulevaient et s'abaissaient avec un léger bruit rauque. Seigneur Prométhée? Ma voix me parut frêle dans la salle caverneuse. Il baissa les yeux vers moi. Ouverts, ils étaient très beaux, grands, sombres et bordés de longs cils. Malgré ses joues lisses et imberbes, il y avait chez lui quelque chose d'aussi ancien que mon grand-père. « Je pourrais t'apporter du nectar, » proposai-je. Son regard s'accrocha au mien. « Je t'en serai reconnaissant, » répondit-il. Sa voix résonnait comme du bois séché. C'était la première fois que je l'entendais. Il n'avait pas poussé un seul cri durant son supplice. Je tournai les talons. Ma respiration s'accéléra tandis que je traversais le palais en direction de la salle du banquet, remplie de dieux hilares. À l'autre bout de la pièce, la furie trinquait en levant un immense gobelet sur lequel était gravée la figure concupiscente d'une gorgone. Elle n'avait interdit à personne de parler à Prométhée, mais peu importe, seules les transgressions graves l'intéressaient. J'imaginais sa voix infernale hurlant mon nom, des fers s'entrechoquant à mes poignets et le fouet fendant l'air. Mais mon esprit ne parvenait pas à aller plus loin. Je n'avais jamais senti un coup de fouet. Je ne connaissais pas la couleur de mon sang. Je tremblais si fort que je dus porter la coupe à deux mains. Que dirais-je si quelqu'un m'arrêtait? Néanmoins, les couloirs que je traversais étaient calmes. Dans la grande salle, Prométhée était toujours silencieux, enchaîné. Il avait refermé les yeux et ses blessures brillaient à la lueur des torches. J'hésitais.
« Je ne dors pas, » dit-il. « Peux-tu lever la coupe pour m'aider ?»
Je rougis, bien sûr qu'il ne pouvait pas la tenir lui-même. Je m'approchai, si près que je sentis la chaleur irradiant de ses épaules. Le sol était humide du sang qu'il avait versé. Je levai la coupe jusqu'à ses lèvres et il but. Sa gorge se soulevait doucement. Il avait une peau magnifique, de la couleur d'une noix polie. Elle sentait la mousse verte trempée par la pluie.
« Tu es une des filles d'Hélios, n'est-ce pas ?»
me demanda-t-il une fois qu'il eut terminé et que j'eus reculé d'un pas.
« Oui. »
Cette question me vexa. Si j'avais été une fille digne de ce nom, il n'aurait pas eu besoin de la poser. J'aurais été parfaite, étincelant d'une beauté directement issue de la source paternelle.
« Merci de ta gentillesse. »
Je ne savais pas si j'étais gentille et j'avais l'impression de ne rien savoir du tout. Il s'exprimait avec précaution, presque timidement, en dépit de la hardiesse de sa trahison. Mon esprit peina à assimiler cette contradiction. Agir hardiment et avoir l'air hardi sont deux choses différentes. « As-tu faim? Je peux t'apporter à manger, » poursuivis-je.
Je crois que je n'aurai plus jamais faim.
Cette remarque n'avait rien de pitoyable, comme elle aurait pu l'être avec un mortel. Nous autres, les dieux, nous mangeons de la même façon que nous dormons, parce que c'est l'un des grands plaisirs de l'existence et non parce que nous y sommes contraints. Nous pouvons décider de ne pas obéir à nos estomacs, à condition de nous montrer suffisamment forts. Je ne doutais pas que ce soit le cas pour Prométhée. Après toutes ces heures passées aux pieds de mon père, j'avais appris à flairer le pouvoir. Certains de mes oncles sentaient moins fort que les fauteuils en cèdre sur lesquels ils étaient assis, alors que mon grand-père Océan dégageait une odeur intense, aussi riche que le limon d'une rivière, et mon père, celle de la chaleur incandescente d'un feu récemment alimenté. L'odeur de mousse verte de Prométhée emplit la pièce. Je contemplais la coupe vide en m'exhortant mentalement au courage. « Tu as aidé les mortels, C'est pour ça que tu es puni.
C'est vrai.
Peux-tu me dire à quoi il ressemble ? En dépit du caractère enfantin de ma question, il hocha gravement la tête.
Il n'y a pas qu'une réponse. Ils sont tous différents. La seule chose qu'ils partagent, c'est la mort. Connais-tu ce mot ?
Je le connais, mais je ne le comprends pas.
Aucun dieu ne le peut. Leurs corps s'effritent et retournent dans la terre. Leurs âmes se changent en une fumée froide et s'envolent vers les enfers. Là-bas, ils ne mangent ni ne boivent rien et ne sentent aucune chaleur. Tout ce qu'ils cherchent à toucher leur échappe.
Ma peau fut parcourue d'un frisson. Comment parviennent-ils à le supporter ?
Ils font de leur mieux.
Les torches commençaient à s'éteindre, et les ombres avançaient vers nous telles de l'eau sombre. Est-il vrai que tu as refusé de demander grâce, et que tu ne t'es pas fait prendre, mais que tu as confessé tes actes à Zeus ?
Oui.
Pourquoi ? Il soutint mon regard.
Peut-être vas-tu me le dire. Pourquoi un dieu ferait-il une chose pareille ?
Je n'avais pas de réponse. Pour moi, c'était folie de provoquer les punitions divines. Mais comment aurais-je pu lui dire cela à lui qui était debout dans une flaque de son propre sang ?
Les dieux ne sont pas obligés d'être tous pareils, répondit-il.
Ce que j'aurais pu rétorquer, je l'ignore. Un cri lointain flotta dans le couloir.
Il est temps que tu partes. Alecto répugne à me laisser longtemps seul. Sa cruauté revient aussi vite que des mauvaises herbes qu'il faut recommencer à couper à tout moment.
Je trouvais cette formulation bizarre, étant donné que c'était lui qui allait être coupé. Cependant, je l'appréciais, comme si ses paroles recélaient un secret. Quelque chose qui ressemblait à de la pierre, tout en contenant des semences. « Je m'en vais alors, acquiesçai-je. Est-ce que ça ira ?»«
À peu près. Comment t'appelles-tu »«
Circé. » Sourit-il un peu ? Peut-être me flattais-je seulement. Je tremblais de ce que je venais d'accomplir, qui représentait plus que tout ce que j'avais accompli durant ma vie entière. Je me détournai et partis, rebroussant chemin à travers les couloirs d'obsidienne. Dans la salle des banquets, les dieux étaient toujours occupés à boire, à rire et à s'asseoir sur les genoux de leurs congénères. Je les observai. J'attendis que quelqu'un s'étonne de mon absence, mais personne ne pipa mot, car personne n'avait rien remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait ? Je n'étais rien, qu'une simple pierre, un enfant nymphe de plus parmi des milliers et des milliers d'autres. Un sentiment étrange monta en moi, une sorte de bourdonnement dans ma poitrine, pareil à celui des abeilles au moment du dégel. Je marchai jusqu'au trésor de mon père, empli de ses richesses scintillantes, coupe dorée en forme de tête de bœuf, collier de lapis et d'ambre, tripodes en argent et bols en quartz ciselé, aux anses incurvées comme des coups de cygne. Mon préféré avait toujours été un poignard au manche d'ivoire orné d'une tête de lion sculptée. Un roi l'avait offert à mon père dans le but de gagner ses faveurs.
« Et ça a marché ? » avais-je un jour demandé à mon père.
« Non. »
Je pris le poignard. Dans ma chambre, la lame de bronze brillait à la lumière des bougies et le lion montrait les dents. Au-dessous, il y avait ma paume, à la peau douce et lisse. Elle ne portait trace d'aucune cicatrice, d'aucune blessure purulente. Elle ne montrerait jamais le moindre signe d'âge. Je m'aperçus que je n'avais pas peur de la douleur à venir. C'était une autre terreur qui s'empara de moi. Que la lame ne coupe rien du tout. Qu'elle passe à travers moi comme à travers un écran de fumée. Il n'en fut rien. Ma peau se fendit brutalement au contact de la lame et la douleur frappa tel un éclair argenté d'une chaleur fulgurante.
Le sang qui coula était rouge, car je n'avais pas le pouvoir de mon oncle. La blessure suppura longtemps avant de se cicatriser toute seule. Je restai assise à étudier le processus, et, ce faisant, je découvris une nouvelle pensée dans ma tête. J'ai honte de l'exprimer tout haut tant elle est rudimentaire, pareille à celle d'un nourrisson qui découvre sa propre main. Mais c'est bien ce que j'étais alors, un nourrisson. Cette pensée était la suivante. Bien que toute ma vie n'ait été qu'opacité et profondeur, je ne faisais pas partie de cette eau sombre. J'étais simplement une créature vivant à l'intérieur.